Et moi, je vais vous parler déjà des origines de Pâques. Pâques ou Pâques. Alors, vous savez que le français, c'est une langue compliquée. Voilà. Pâques sans S, c'est la Pâque juive. Pâques avec S, c'est la Pâque chrétienne. Mais c'est plus compliqué que ça. Parce que Pâques, c'est masculin, singulier, avec un S. Mais s'il y a un déterminant devant ou un adjectif, ça peut devenir féminin. Joyeuse Pâques, par exemple, est pluriel. Alors, celui qui comprend, il me dit, moi je ne comprends pas, mais c'est comme ça. Et puis c'est plus compliqué que ça encore, parce que la date de Pâques, elle n'est pas fixe. Alors la date de Pâques, c'est le premier dimanche qui suit la nouvelle lune, qui suit l'équinoxe de printemps. Ça va? C'est bon? Pour les juifs, c'est une date fixe par rapport à un mois, mais vous savez que les juifs ont un calendrier un peu bizarre, c'est un calendrier lunaire. 12 mois de 29 jours, ça ne fait pas 365. Il en manque, ça se décale, alors on rajoute un mois de temps en temps. Bref, Pâques, c'est compliqué. Mais bon, on va parler des origines de cette fête. Alors, si on veut comprendre notre Pâques à nous, il faut remonter loin à des origines qui ne sont pas chrétiennes, puisqu'elles sont juives. Alors, les origines juives... Est-ce que ça marche, ça? Ça n'a pas l'air. Si, ça marche. Alors, on remonte un peu dans l'histoire. On remonte de 4000 ans, à peu près. À l'époque où les Hébreux n'étaient qu'une grande famille de nomades en voie de sédentarisation dans le Moyen-Orient. Comme il y en avait beaucoup à l'époque, vers 1600 ans avant Jésus-Christ. La puissance dominante de l'époque, ouais, ça a été un peu vite, bref, c'était l'Égypte. C'est le début du Nouvel Empire et de la 18e dynastie. Alors le pays d'Égypte sortait d'une période de déclin. Et les deux siècles suivants, ça a été une série de triomphes aboutissant à l'apogée de la puissance de l'Égypte et de sa civilisation. C'est au début de cette période que se situe l'histoire de la famille de Jacob. Vous savez, Jacob qui a eu ses 12 fils, dont Joseph, le petit chouchou, et ses frères jaloux l'ont vendu comme esclave, et il a été en Égypte. Mais Dieu avait un plan, et après bien des déboires, retournement de situation, Joseph est nommé premier ministre par Pharaon pour gérer une période de famine, une période qui devait subvenir dans tout le Moyen-Orient d'après une révélation de Dieu. C'est dans Genèse 41, Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Lui qui était esclave, ça a dû le changer. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant le Pharaon, roi d'Égypte, et il parcourut tout le pays. Et la suite du texte nous montre que Joseph fut un ministre sage et avisé qui organisa l'Égypte et contribua à sa puissance. Mais cette famine, elle a contraint le clan de Jacob à chercher refuge en Égypte, où les Hébreux vécurent 4 siècles. C'est pendant cette période que régna Akhenaton, le seul roi monothéiste qui a connu l'Égypte. et on y voit certainement l'influence hébraïque. Et au cours de ces siècles, ils devinrent nombreux. C'est ce que nous dit le livre d'Exode, dans son premier chapitre. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Mais il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Et il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Ainsi, allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis. Et l'on établit sur eux des chefs de corvée, afin de les accabler de travaux pénibles. Mais plus on les accablait, plus ils se multipliaient et s'accroissaient. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent amers par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Or, les historiens nous disent que c'est vraisemblablement sous le règne de Ramsès II que ceci survint. Il régna en Égypte de 1304 à 1236. Un long règne. À l'époque, l'Égypte avait pas mal de problèmes avec militaires, avec les Hittites, leurs voisins, leurs grands voisins du nord. Alors, pour la petite histoire, la Bible nous parle des Hittites. Nos historiens les ont découverts, redécouverts qu'au début du XXe siècle, quand même. Ramsès avait donc des raisons pour être prudent. Et pendant son long règne, la vie fut donc difficile pour les Hébreux réduits en esclavage, ou à quelque chose qui lui ressemble en tout cas. Alors on voit que la xénophobie n'est pas quelque chose de nos jours, ça existe depuis très longtemps. Alors Ramsès fonda les villes de Pithom et Ramsès dans l'état du Nil. C'est ainsi que le peuple hébreu bâtit ses villes pour servir de magasin au pharaon. On voit ça dans l'Exode aussi. Et c'est à la fin du règne du probablement à la fin du règne de Ramsès II et au début de celui de son successeur, Meremta, un drôle de nom, que se situe l'épisode qui fondera la fête de Pâques pour les Juifs. Vous connaissez tous Moïse et son histoire, et nos contemporains, enfin les plus jeunes peut-être pas. Qui c'est qui a vu le film « Les Dix Commandements » ? Voilà, les plus anciens en tout cas. Ou un peu plus récemment, le spectacle de Robert Hossein. En résumé, après un terrible bras de fer entre Moïse, l'envoyé de l'Éternel, et Pharaon, ce bras de fer se termine par une nuit de terreur et de sang où périssent tous les enfants premiers-nés des Égyptiens. Pharaon, il en a marre. Vraiment, il n'en peut plus. Et il renvoie les Hébreux. C'est cette nuit que commémore la Pâque. Et on trouve le récit dans l'Exode, au chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Parlez à toute l'assemblée et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour et toute l'assemblée l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on le mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte, je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. La fête de Pâques, en hébreu Pessah, passer au-dessus, signifie bien ce que Dieu a fait cette nuit-là pour les Hébreux. Alors passons aux origines de la fête de Pâques chrétienne. Pour les chrétiens que nous sommes, Pâques, avec un S, est toujours une majuscule. Alors, je ne sais pas, ah oui, mais là, la Pâque chrétienne, il y a un déterminant devant et un adjectif. Mais j'aurais quand même dû mettre un S, une erreur. Donc, pour nous, chrétiens que nous sommes, la Pâque a aussi une origine juive, puisqu'elle commémore la mort de Jésus à Jérusalem, aux alentours de l'an 30, la veille de la Pâque juive, et ça commémore aussi sa résurrection. Ces faits se sont déroulés alors que l'État juif était sous la domination romaine, Tibère régnait à Rome, le pouvoir à Jérusalem était assuré par Pilate, procurateur romain, de 26 à 36. Pilate, c'était un dirigeant dur. Quand il est arrivé au pouvoir, en 26, il a maté une émeute avec une très grande férocité. C'est dans ce contexte qu'apparaît Jésus que Jean-Baptiste identifie comme l'agneau de Dieu. Dans Jean 1, il nous est dit, le lendemain, Jean-Baptiste donc vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On peut déjà voir là, faire un parallèle entre l'agneau de la Pâque qui épargne les premiers-nés hébreux et cet agneau de Dieu qui nous épargne de la colère divine. Alors la suite de l'histoire après 3 ans, pendant lesquels il guérit les malades, rend la vie aux aveugles, fit marcher les paralytiques et enseigna les foules qui l'écoutaient, enseignement de repentance et d'amour. Il fut arrêté par les Juifs, livré aux Romains, qu'ils condamnèrent à mort et le crucifièrent. Or, c'est ainsi qu'on peut résumer, vraiment résumer, les faits qui se passèrent il y a 2 millénaires. Seulement, Jésus, ce n'était pas un homme ordinaire. D'abord, il était né d'une femme vierge. Il était fils de Dieu. Et il n'est pas mort par hasard. Sa venue et sa mort étaient annoncées bien des siècles avant par les prophètes. Et lui-même disait quelques jours avant sa mort, c'est l'évangile de Matthieu qui nous le rapporte, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Sa mort n'était pas subie, elle était volontaire. Jésus dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » Jésus meurt donc en croix, en disant « Tout est accompli ». Et cette mort s'accompagne de manifestations exceptionnelles. Il y a 3 heures de ténèbres en pleine journée, le grand voile du temple se déchire, la terre tremble, les rochers se fendent, si bien que le chef de la garde romaine dit lui-même « Assurément, cet homme était fils de Dieu ». Mais l'histoire de Jésus ne s'arrête pas là. Le plus important reste à venir. Bien que son tombeau ait été gardé par la police, 3 jours plus tard, alors que les femmes allaient pour embaumer son corps, selon les coutumes juives de l'époque, il n'était plus là. Christ est ressuscité. C'est la signification de la Pâque pour les chrétiens, cette nouvelle extraordinaire. Christ est ressuscité. Pâques, c'est la fin d'une histoire, mais c'est le début d'une autre. Et pour comprendre tout ça, il faut repartir du début. Dieu, celui que la Bible nous dit qu'il est unique, seul Dieu, celui qui a conçu l'homme pour être un être libre et responsable. Or, cet homme a voulu être comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Seulement, alors que Dieu est le mal, l'homme l'a préféré au bien. Et depuis, la relation entre Dieu et l'homme est rompue. Le mal, Dieu le nomme le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Dieu ne pouvant, dans sa sainteté, voir le péché. Pour Dieu, l'homme doit mourir. Et pour éviter cette mort de l'âme, cette séparation d'avec lui, Dieu a fait porter notre péché par un autre, par Christ. Dieu lui-même venu comme homme à part entière, cet homme Dieu meurt par procuration, à notre place, à ma place. Pour éviter cette mort éternelle, nous devons accepter la solution de Dieu, ou être sans péché. Ce que Dieu dit être impossible. Et je pense que nous le savons tous bien, ça. Hein ? En nous identifiant à cet homme, mort à notre place, c'est comme si nous mourions avec lui. Et la signification de Pâques, c'est que Christ n'est pas resté dans son tombeau, il est ressuscité. Et si nous sommes identifiés à lui dans sa mort, nous le sommes aussi dans sa vie. Nous vivons alors une vie nouvelle, une vie qui peut plaire à Dieu. Et Dieu nous déclare juste et donc exempté du salaire du péché et de la séparation d'avec lui. La Bible nous dit que nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est tout le message de la Bible, et en particulier du Nouveau Testament, les écrits de ceux qui ont vécu avec Jésus et qui nous ont transmis ses enseignements. C'est aussi ce qui fait notre raison de vivre et notre joie de vivre en connaissant Dieu comme un Père et non plus comme un juge. Ce qui fait notre espérance, car les promesses de Dieu sont toujours tenues. Christ est ressuscité. Pâques, c'est la fin d'une histoire, le début d'une autre. Ça l'était pour le peuple hébreu, ça l'est aussi pour nous. Alors, pour synthétiser cette histoire, ils étaient esclaves en Égypte, nous étions esclaves du péché. Romains 6 nous dit, vous étiez auparavant esclaves du péché. Ils ont été libérés de l'esclavage en Égypte, nous sommes libérés de l'esclavage du péché. Toujours dans Romains, vous avez été libérés du péché. Ils ont été épargnés du jugement de Dieu par le sang d'un agneau sans défaut. Nous sommes épargnés de la colère de Dieu par le sang de Jésus, l'agneau de Dieu. 1 Corinthiens 5, nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, le Christ lui-même. Ils ont été baptisés dans la mer et dans la nuée. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Nous sommes aussi baptisés au nom de Jésus, baptisés d'eau et du Saint-Esprit. Dans Actes, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et dans Corinthiens, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Ils ont marché dans le désert 40 ans, conduits par la nuée. Nous marchons dans nos vies chrétiennes, conduits par le Saint-Esprit. Romains 8, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Puis enfin, le but du voyage, pour eux, c'était la terre promise, le pays d'Israël. Pour nous, le but du voyage, c'est la résurrection et le royaume de Dieu, la maison du Père. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors que ça nous reste bien dans la tête. On est ressuscités ensemble et on est assis ensemble dans les lieux célestes. On est déjà arrivés. Qu'on puisse s'en souvenir toute cette semaine et les semaines qui viennent.